Une invitation de Dialogue Global et ses balados pour une alternative systémique. Pour un monde qui réfléchit et critique, qui agit en éducation populaire et qui se reconstruit avec d'autres alternatives pour raviver l'altermondialisme qui nous tient à cœur. Dialogue Global. Nous avons une crise mondiale sans précédent qui exige une réflexion, une remise en question et un dialogue approfondi entre les militants, les organisations et les mouvements sociaux du monde entier. Des stratégies critiques sont essentielles pour faire face aux crises actuelles et pour définir les prochaines étapes. Plus que jamais, nous avons besoin de partager des analyses, des expériences, des idées et des alternatives face aux crises sanitaires, sociales, économiques, politiques et environnementales croissantes. De nombreux réseaux, organisations et mouvements sociaux sont engagés dans des discussions nationales, régionales, continentales et mondiales sur les défis qui se présentent à nous. L'objectif du dialogue global pour une alternative systémique est de soutenir ce processus en créant des liens plus forts entre les groupes militants et les mouvements sociaux et en faisant venir un plus grand nombre d'activistes et d'organisations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et du Nord et d'Europe. Notre ambition n'est pas de remplacer ou de tenter de centraliser les multiples et très positives initiatives déjà en cours. Dialogue global. Au début des années 2000, des mouvements de masse se mettent en marche contre les politiques néolibérales, y compris les traités de libre-échange qui se font au bénéfice des grandes compagnies multinationales. À Seattle, à Genoa, à Hong Kong, à Cancun et ailleurs, des manifestations regroupent des milliers de personnes pour demander une autre mondialisation, une altermondialisation. Au Québec, des mouvements citoyens, des syndicats, des groupes communautaires et féministes, des ONG, se décident à convoquer une grande convergence à Québec en avril 2001, où les chefs d'État des Amériques se rencontrent à l'initiative des États-Unis d'Amérique et avec l'idée de subordonner le reste du continent à leurs besoins. Les groupes convoqués organisent un contre-événement qui devient le sommet des peuples des Amériques avec plusieurs jours de débats et 60 000 personnes de partout dans les Amériques pour rejeter le projet néolibéral et proposer un programme alternatif pour la justice sociale et écologique. L'opinion québécoise est saisie. Les impacts se font sentir partout. Peu de temps après, l'Amérique latine enterre le projet des États-Unis et du Canada. Élisent des gouvernements progressistes et font lever l'étendard du drapeau altermondialiste qui avait flotté pendant quelques jours sur Québec. Dialogue global. Professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal, Raphaël Canet participe aux forums sociaux depuis 2004. Il a coordonné l'organisation du premier forum social québécois en 2007. Puis de 2008 à 2015, il a encadré les collectifs de la société civile québécoise dans les forums internationaux. En 2016, il a coordonné l'organisation du Forum social mondial tenu à Montréal. Il est membre du Conseil international du FSM, titulaire d'un PhD en sociologie de l'UQAM et d'un doctorat en sciences sociales de l'Université de Paris 4 Sorbonne. Il étudie les mobilisations de la société civile globale afin d'humaniser la mondialisation et démocratiser la gouvernance. Spécialiste des mobilisations altermondialistes et de la question nationale québécoise, il a coordonné la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie de l'UQAM de 2001 à 2004 et effectué un postdoctorat à l'INRS-UCS de 2004 à 2006 sur le thème de la société civile globale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques sur la mondialisation, le développement international, les mobilisations sociales et la question nationale. Il est membre fondateur du Réseau international pour l'innovation sociale et écologique, RISE. Dialogue global.
30 ans après le premier forum économique mondial, le premier Forum social mondial à Porte-le-Gré en janvier 2001 constitue un bloc contre-hégémonique face aux États-Unis d'Amérique afin de construire un nouveau projet, un altermonde. Il y a eu une certaine concrétisation par l'organisation de forums social mondiaux. Donc, Raphaël Canet, merci de partager votre réflexion dans ce dialogue que l'on veut global. Qu'en est-il de la suite de ces oppositions manifestes? Où en sommes-nous rendus 20 ans plus tard? après ce sommet des peuples à Québec qui a eu lieu dans le cadre du sommet des Amériques.
On est toujours en lutte pour construire un monde meilleur. Ça, c'est clair que cette bataille-là, on ne l'a pas encore gagnée. Donc, il faut toujours se mobiliser pour essayer de rassembler toutes les forces constructives pour construire toujours une alternative au modèle dominant. Le modèle dominant est toujours présent. C'est clair que depuis 20 ans, quand même, il y a eu justement des grands moments de rassemblement, des grandes convergences. On s'est rendu compte que finalement, sur le plan de l'analyse qui était menée à la fin des années 90 et puis à ce tournant des années 2000, que ce soit au Forum social mondial à Porto Alegre en janvier 2001 ou à Québec en avril 2001, parce que c'était des grands moments de mobilisation et de rassemblement, mais aussi des grands moments d'échange d'idées, d'échange de perspectives, de réseautage et de convergence des mouvements. Ça commençait à ce moment-là. Et sur le plan de l'analyse, sur le plan de la bataille des idées, on pourrait dire. En fait, il y a eu le constat depuis le départ jusqu'à aujourd'hui que, dans le fond, nos analyses étaient fondées sur la critique du modèle néolibéral et de ses impasses à la fois sociales et environnementales. 20 ans plus tard, on se rend compte qu'on avait bien raison. Et d'ailleurs, toutes ces analyses-là sont percolées, si on peut dire, parce qu'elles ont été reprises ou elles sont reprises même plus largement dans les grandes institutions internationales, même qu'on critiquait à l'époque, la Banque mondiale, même le Fonds monétaire international. Même à Davos, au Forum économique mondial, ils se rendent compte que le modèle va peut-être un peu trop loin, le modèle dominant. Donc, au niveau de la compréhension et de l'analyse du monde dans lequel on vit et du modèle dominant, c'est clair que tous ces moments de rassemblement ont permis justement de mettre à jour des grands défis. Maintenant, la bataille politique, c'est-à-dire la bataille des idées, c'est la bataille de la réflexion. Après, c'est la bataille de l'action. Comment on met en œuvre ces idées, ces analyses pour concrètement construire une dynamique de transformation sociale? Et c'est ça l'enjeu. C'est pas juste de penser, c'est d'agir aussi, hein, sinon on fait juste de la philosophie contemplative. Donc, comment faire pour agir concrètement? Alors là, il y a toutes sortes de tentatives qui ont été menées, toutes sortes d'alliances, toutes sortes de coalitions politiques. Et c'est à ce niveau-là, peut-être qu'il faut réfléchir au niveau de l'action, comment faire pour aller plus avant, parce que le modèle néolibéral, capitaliste, que l'on critiquait à la fin des années 90, 20 ans plus tard, c'est plus le même non plus. Il a aussi avancé, et notamment sous sa forme numérique. Et on le vit actuellement, d'ailleurs, avec toute la pandémie, hein, ça crée tout un contexte social bien, bien différent de celui qu'on vivait à la fin des années 90, au tournant des années 2000. Donc, comment faire pour s'organiser et justement pas toujours subir la même forme de domination politique et économique là qu'on vivait à ce moment-là. Donc, il faut réfléchir et en même temps, il faut penser des voies de convergence pour agir différemment. Donc, de ce point de vue-là, la bataille qu'on avait commencé à mener à Québec, même en avril 2001, il faut toujours, je pense, continuer à la mener et c'est toujours pertinent de prendre la rue pour justement développer, faire avancer des stratégies, je pense, peut-être plus locales de transformation sociale. Là, il faut vraiment se réapproprier la rue et nos territoires pour les préserver d'une forme d'accaparement un peu prédatrice, là, que ce soit les ressources humaines ou les ressources naturelles, par cette espèce de capital transnational qui demeure encore et qui se numérise de plus en plus.
Et donc, il y a eu plusieurs propositions dans le cadre de ces forums sociaux mondiaux. On en est arrivé à vouloir construire un altermonde. Où est-ce que nous en sommes justement dans la stratégie de vouloir faire connaître cet altermonde?
Disons que au niveau des stratégies ou disons de l'analyse qui permet de rallier de plus en plus de gens pour faire connaître justement ce monde alternatif à construire, je pense que là où ça a avancé depuis 20 ans, et c'est assez important, et puis ça s'est fait à peu près au tournant des années 2010, 2009, 2010, c'est la prise de conscience de plus en plus grande qui n'était pas si forte au départ. Au départ, c'était vraiment une critique de la mondialisation financière, du capitalisme financier, des accords de libre-échange et ces choses-là. Donc, on mettait vraiment l'accent sur la dynamique économique et financière et ses impacts sociaux. Et on revendiquait, disons, plus de justice sociale. Au tournant des années, suite à la crise économique de 2008, et puis au tournant des années 2009-2010, la question environnementale est devenue de plus en plus importante au sein du mouvement altermondialiste. Ça ne voulait pas dire qu'elle n'existait pas avant, là. Elle existait avant, puis il y avait des mobilisations, mais on s'est rendu compte à ce moment-là, et ça c'est important, qu'il fallait faire la jonction entre la revendication d'une plus grande justice sociale et celle d'une plus grande justice environnementale. Donc cette connexion entre ces deux logiques-là, on peut pas juste, on ne pourra pas un monde meilleur pour l'humanité si son cadre de vie est complètement, si on peut plus survivre, si les conditions de vie sur la planète sont complètement annihilées par le modèle de développement qu'on a imposé, un modèle extractiviste et fondé sur le pétrole. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait faire le lien entre ces deux éléments-là. Donc, je pense que c'est un des éléments qui permet notamment de rallier les plus jeunes qui ont cette prise de conscience, et on le voit avec toutes les mobilisations environnementales, hein, autour de, pas simplement de Greta Thunberg, mais toutes ces mobilisations qui poussent beaucoup, les jeunes s'invitent au Parlement. Il y a plein de mobilisations dans les cégeps, même les écoles secondaires. En tout cas, c'était très fort avant la pandémie. C'était le mouvement qui ralliait le plus de monde. On l'avait vu à Montréal avec la grande manifestation. Donc, ce lien-là, entre construire, innover d'un point de vue social, c'est-à-dire inventer des nouvelles manières de produire, de consommer et de vivre, socialement, mais dans un rapport beaucoup plus, harmonieux avec le territoire et donc la protection de l'environnement. Et ça, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de faire des liens avec d'autres luttes aussi en cours. Et là, je prendrai simplement deux cas, là, le cas, les femmes, les revendications des peuples autochtones, parce que dans le fond, c'est un peu la même convergence, cette approche intersectionnelle qu'on voit de plus en plus se développer. Et donc, justement, les peuples autochtones mettent de l'avant à la fois une volonté de reconnaissance de leur dignité en tant que personne, et bon, toute l'affaire qu'on entend parler actuellement sur les pensionnats, où ils ont été niés, mais ils ont été niés en tant que personne, ils ont été niés en tant que peuple, parce que le projet de colonisation visait justement à les déshumaniser pour leur voler leur terre. En gros, c'était ça le projet. C'était de s'accaparer leur territoire et de l'exploiter. Et pour ça, il fallait les déshumaniser et finalement les considérer comme une sous-catégorie, là. Et puis, il fallait justement les envoyer leurs enfants dans les pensionnats pour les rééduquer, pour en faire des bons blancs, là. Je ne sais pas trop comment le dire, là. Mais donc, et cette logique-là, et donc, ils ont résisté en protégeant leur identité, mais aussi parce que leur identité est liée à la protection du territoire. Et c'est ça qu'on commence à reprendre en considération. Et c'est là où c'est intéressant de faire le lien avec ces luttes-là, parce que, dans le fond, pour résister à ce capitalisme mondialisé qui finalement nous oppresse sous tous ses angles, il faut, et je pense que ça c'est important et c'est ce qu'on a compris depuis une dizaine d'années, il faut prendre conscience qu'on vit sur un territoire, qu'on est enraciné localement et que c'est peut-être localement, en faisant le lien avec différentes luttes, différentes approches, qu'on va pouvoir, donc dans l'intersectionnalité, dans l'intergénération, dans l'intersectoriel même entre les différentes luttes, mais toujours les pieds sur terre et sur une terre qui est la communauté où on vit, là peut-être qu'on aura un impact un peu plus grand. Et je pense que c'est peut-être une avancée de la réflexion du mouvement altermondialiste, c'est qu'au départ, il y a une vingtaine d'années, justement, on se battait contre la mondialisation néolibérale, donc on se battait plutôt au niveau global. Et donc on se confrontait au Forum économique mondial, on se confrontait aux grandes, ce qu'on appelait les grandes institutions économiques à caractère international, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OCDE, toutes ces luttes, l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements, hein, c'est le chapitre 11 de l'ALENA, c'était un des éléments fondamentaux là, qui a amené les mobilisations à Québec justement en avril 2001. Mais là, on avait pris des cibles peut-être un peu larges dans le fond, et il fallait mener cette lutte pour montrer que justement, avec la mondialisation néolibérale, le pouvoir politique, s'était déplacé du niveau national au niveau international. C'était ces grandes institutions internationales qui dictaient les plans d'ajustement structurel, que ce soit aux pays du Sud dans les années 80 ou même aux pays du Nord dans les années 90 et dans ce qui a suivi avec toutes les politiques d'austérité. Donc on voyait ce déplacement-là. Mais au niveau de la lutte, on s'est confronté aux institutions internationales, on a essayé d'avoir un impact politique au niveau national, et c'est ce qui a été fait en Amérique latine, hein, la vague des roses en Amérique latine, des gouvernements progressistes. Et on s'est rendu compte que finalement, suite aux années 2010, que même ces gouvernements progressistes, que ce soit en Amérique latine et même en Europe, hein, on pourrait prendre la Grèce, on pourrait prendre Podemos en Espagne, où finalement on a été d'une certaine manière un peu déçus par leur capacité à agir, parce que ces États-là, peut-être un peu compliqué la dynamique politique et la dynamique économique avec les institutions internationales. Donc là, peut-être que ce qu'on se rend compte, et c'est un peu la logique qui est ressortie de toutes les mobilisations depuis le mouvement Occupy, depuis 2010-2011, c'est peut-être qu'il faut voir comment se réenraciner de manière encore plus locale et plus simplement compter sur l'échelle nationale comme un rempart, mais partir de mobilisations locales. Parce que dans les mobilisations locales, les luttes deviennent concrètes. On l'a vu au Québec avec, bon, il y a eu le mouvement étudiant pour les droits de scolarité au Québec, il y a eu toutes les mobilisations environnementales sur la question des pipelines. Et il y a toutes sortes de petites luttes comme ça qui font du sens pour les gens. Parce que dans le fond, on protège notre éducation, on protège nos institutions, on protège notre territoire, on protège notre forêt. Et donc ça permet aux gens de prendre conscience qu'ils peuvent être des acteurs de transformation sociale et pas juste de subir un système qui s'impose à eux. Et ça, de reprendre conscience qu'on a une capacité d'action, qu'on se rassemble collectivement. Ben ça, c'est fondamental pour pouvoir avoir un impact un peu plus global, mais ça passe par une action plus locale. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut voir une manière de construire ce monde nouveau. Là, en fait, penser global, agir local, on a compris, on comprend les dynamiques au niveau global, mais on va enraciner nos luttes au niveau local. Et à mon avis, c'est ce qui peut être le plus porteur pour la prochaine décennie là qu'on va voir venir, parce que justement, on va continuer à se mobiliser sur les questions environnementales. Les réchauffements climatiques vont continuer. Les conditions de vie sur la planète vont être de plus en plus difficiles. Hein, pour les plus pessimistes, d'un point de vue de la collapsologie, hein, toute cette science de l'effondrement de nos civilisations due à ce modèle de développement, il cible les années 2030, 2030, 2040. 2030, c'est demain. Donc, si en 2030, les conditions de vie vont être encore plus dures, mais les jeunes vont être encore plus mobilisés, puis la question environnementale va être encore plus pertinente pour légitimer des mobilisations. Maintenant, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire qu'au niveau d'une défense de l'environnement radical, on va oublier la question sociale. Il faut vraiment continuer à avancer pour faire ce lien-là entre la question sociale et la question environnementale pour se rendre compte qu'on ne pourra pas construire un monde meilleur pour les humains s'il n'y a pas d'environnement propice pour eux. Mais en même temps, l'idée, ce n'est pas juste d'avoir des espèces de bulles où les ultra-riches vont pouvoir survivre en éradiquant le reste de l'humanité qui les empêche de vivre toujours selon leur même niveau de vie. Donc, il va y avoir un recentrement, à mon avis, de l'analyse, mais surtout des luttes qui vont s'enraciner au niveau local.
Raphaël Canet, effectivement, il y a 20 ans, l'hégémon à contrer était les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on parle plutôt de la République populaire de Chine qui est l'hégémon. Donc, comment faire pour contrer le nouvel hégémon?
Une belle grande question. Oui, ça s'est déplacé. J'aurais tendance à pas trop minimiser quand même le pouvoir encore là, ou la puissance des États-Unis, parce qu'au niveau militaire, ils sont quand même encore pas mal. La moitié des dépenses militaires mondiales, c'est les États-Unis. Et puis, moi, je pense que la bataille va se faire au niveau numérique là. La plupart des grandes entreprises de l'ère numérique qu'on voit, là, les Zoom, Apple et tout ça de ce monde, sont propriétés encore américaines. Donc, ils ont quand même un poids. C'est sûr que les Chinois investissent énormément dans l'intelligence artificielle, par exemple, et ont développé aussi leur propre réseau. Donc, il va y avoir une confrontation à ce niveau-là. Je pense que cette bataille sur ces différents modèles, je pense qu'il y a des modèles, c'est des modèles de société qui sont mis de l'avant. Alors, le fait que le modèle états-unien, c'est le modèle du Far West. Là, on exploite les ressources naturelles à outrance, on tasse les peuples ou on exploite les peuples, donc les autochtones ou les populations africaines qui ont été déportées et mises en esclavage. Donc, il y a une logique prédatrice très forte dans le modèle états-unien de base, dans le fond, tel que les États-Unis se sont développés, tel qu'ils se sont imposés au niveau mondial. Donc, si on en finit avec cette forme-là d'hégémon, ce serait une bonne chose. Maintenant, le modèle chinois, je ne sais pas s'il est beaucoup plus respectueux des droits humains. Alors, ça, c'est un autre problème. Donc, c'est sûr qu'il va falloir toujours garder, je pense que pour le mouvement altermondialiste, c'est de garder cet objectif phare, là, dans le fond, c'est la défense des droits humains qui doit être fondamentale. Et donc, on ne peut pas substituer un modèle autoritaire à un autre. Donc, il faut toujours garder cette défense des droits humains, mais dans une logique de justice sociale et environnementale. Donc, je pense que si on prend ces trois éléments-là, ça nous permet justement de voir quels peuvent être les éléments à mettre de l'avant pour continuer. Dans le fond, je pense que ce qui est fondamental, c'est de continuer à nourrir une réflexion critique à l'égard du modèle dominant et à garder des principes fondamentaux. Les droits humains, la démocratie, la justice sociale et environnementale, pour nous organiser collectivement sur nos propres bases, dans nos communautés et sur nos territoires, pour continuer à avoir cette logique-là. Et à partir de là, ben, on pourra résister à la fois au modèle états-unien qui est peut-être en déclin, mais qui est encore très fort, et au modèle peut-être ascendant chinois ou autre qu'on peut voir émerger, modèle autoritaire qu'on peut voir émerger ailleurs.
En terminant, Raphaël Canet, lors d'une activité organisée récemment par le mouvement Attaque Québec et d'autres partenaires, vous avez relaté une rétrospective en 3 points. Premièrement, on avait raison. Deuxièmement, on a perdu. Troisièmement, on doit changer. Pouvez-vous faire part de ces réflexions qui ont été vraiment lumineuses lors de cet événement de grande transition?
On avait raison dans le sens, ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où nos analyses, les analyses que le mouvement altermondialiste et ses différents intellectuels organiques, ses différentes revues, ses citoyens, toute la production de connaissances, et notamment le livre d'Attaque, on avait raison dans nos analyses, on avait raison, on a gagné la bataille des idées. Le néolibéralisme, là, ce n'était pas le meilleur des mondes. Au contraire, ça avait plein d'implications, les accords de libre-échange, en termes de recul pour les droits humains et les droits environnementaux, d'une certaine manière, les droits de la planète. Donc, l'analyse qu'on faisait de ce modèle-là était fondée et on avait raison de ce point de vue-là. On a perdu la bataille, deuxième point, on a perdu la bataille politique dans le sens où on n'a pas réussi à transformer ces analyses, ces réflexions critiques sur le modèle dominant en politique réelle et concrète mise en œuvre, politique publique mise en œuvre par des États ou même au niveau plus local, par des villes, on aurait pu dire, ou au niveau international, par des comme l'Union européenne ou des institutions internationales. On n'a pas traduit ces analyses-là, cette critique du modèle dominant en politique publique pour le réformer. On n'a pas réussi à aller aussi loin que ça. Et là, je pense qu'il y a eu un grand moment d'échec au niveau politique. Ça a été autour de la crise économique de 2008-2009. On avait l'opportunité là, puisque la crise économique frappait au centre, au cœur du ventre de la bête, comme on disait, mais au centre de l'économie mondiale, hein, les États-Unis. Et puis ça s'est diffusé ailleurs, en Europe et tout ça. Il y avait justement une opportunité là pour montrer que le système ne fonctionnait pas. Et donc, qui aurait imposé des réformes majeures pour justement abolir les paradis fiscaux, taxer les transactions financières et mettre en place des politiques publiques de justice redistributive beaucoup, beaucoup plus généreuses, axées sur la santé et l'éducation. Mais la santé, par exemple, on le voit aujourd'hui, les impacts que ça a eu, cette néolibéralisation de tout ce secteur-là. Donc, il y avait une opportunité d'agir et surtout sur la question environnementale, parce qu'on aurait pu faire le grand New Deal, le Green New Deal dont on parle aujourd'hui à ce moment-là. Et c'est un peu ce que je disais à cette conférence, c'est que je pense qu'au niveau international, un des échecs majeurs, ça a été à Copenhague en 2009, pendant cette COP, où justement il y avait des manifestations assez massives. Hein, on parlait de la question des changements climatiques, et puis il y avait ce slogan, là, changeons le système, pas le climat, et c'était très porteur. Mais ces mobilisations de masse en 2009 à Copenhague n'ont pas réussi à pousser les gouvernements justement à agir. Pourtant, aux États-Unis, on avait justement Obama à cette époque-là, qui aurait pu être un gage de bonne volonté. Bon, au Canada, on avait Harper, c'était beaucoup plus complexe. Mais on n'a pas réussi à amener les États à mettre en place des politiques très volontaires ou très audacieuses pour passer à autre chose. Et finalement, on est revenu, on a sauvé les grandes banques et on est revenu au modèle classique. Alors, il y a eu un sursaut à Cochabamba en 2010, l'année suivante, avec la Bolivie, l'Équateur, qui avait une proposition alternative des droits de la terre-mère, mais 35 000 personnes se sont rassemblées à ce sommet-là, mais on n'a pas réussi à appuyer ces gouvernements pour qu'ils puissent, au niveau international, et ça s'est vu à Rio en 2012, mettre en place des réformes profondes, structurelles, majeures, pour sortir du pétrole et construire des économies et des sociétés beaucoup plus respectueuses de l'environnement et des générations futures. Donc, c'est cette bataille-là qu'on a perdue à ce moment-là, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, le capitalisme, dans le fond, suite à la crise de 2009-2010, il s'est renforcé, prolongé en se jetant dans l'ère numérique. Et c'est ce qu'on a vu, c'est la numérisation de ce capitalisme-là, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise. Donc là, aujourd'hui, on aura peut-être une nouvelle opportunité, qui est la pandémie. La pandémie actuelle, dans le fond, qu'on vit, qu'on subit depuis 1 an et demi, est une nouvelle crise globale qui est pas, et en fait, qui est directement liée à cette logique de la mondialisation néolibérale. Donc, quelle politique les États vont mettre en place? Donc là, on le voit, hein, dans différents États, on a réinjecté beaucoup d'argent dans les économies pour relancer les économies. Dans quoi on les réinjecte? Est-ce que c'est, alors prenons le cas du Québec tout simplement, est-ce qu'il faut mettre 10 milliards dans le troisième lien? Est-ce que l'investissement dans les infrastructures ou la nationalisation du pipeline dans l'Ouest canadien, est-ce que ça, c'est des projets d'avenir? Non, mais c'est des milliards qu'on injecte là-dedans. Pourquoi on ne l'a pas mis dans les conditions de travail des employés de la santé ou de l'éducation, peu importe, ou dans justement une économie décarbonisée ou une économie non centrée sur l'exploitation des ressources? Donc on perd peut-être une opportunité, une puissance d'action collective, parce que quand on utilise des milliards d'impôts pour construire des ponts, des autoroutes ou subventionner une industrie pétrolière, c'est des fonds collectifs. C'est l'argent de tout le monde qu'on aurait pu investir dans des politiques véritablement innovantes pour aller dans une véritable transition. C'est là où on manque le coche politiquement. Donc, changer de stratégie, on doit changer, c'était mon troisième point. Quelle stratégie mettre en place pour pousser nos gouvernements à allouer les fonds publics, à allouer nos ressources, et pas juste financières, mais nos ressources humaines et naturelles, vers une politique de transition juste, sociale et écologique. C'est ça qu'il faut. Donc, comment, en tant que mouvement, on pourrait être efficace pour développer, aller dans ce sens-là? Donc, quelle stratégie adopter? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais l'analyse personnelle, et c'est très personnel que je fais, elle se fait peut-être en trois points. Je pense que ce qui est fondamental, et c'est un peu ce que je disais aussi, c'est de développer une résilience locale. Il faut, à l'endroit où on vit, dans nos communautés, résister. Résister à tous ces projets, toutes ces tentatives de toujours essayer d'allouer les fonds publics et de mettre en place des politiques publiques qui aillent dans le sens du statu quo ou de continuer dans la même logique parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Ça, c'est un élément qu'il faut bloquer. Donc, il faut se mobiliser contre les pipelines, il faut se mobiliser contre les projets de ports méthaniers, de troisième lien, tout ce qu'on voit passer là au niveau local pour les négociations du secteur public. Il y a plein d'opportunités d'action ici et maintenant chez nous. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et il est essentiel d'avoir une politique plus généreuse en termes de protection à la fois des ressources naturelles, mais aussi d'écoute et de construction d'alliances avec justement les mouvements qui luttent pour ça. Donc, je pense aux autochtones, je pense aux femmes, je pense aux étudiants, je pense aux jeunes, je pense à tous ces groupes qui se mobilisent, les milieux environnementaux, pour préserver cet espace local et commun de vie. De l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement se couper du reste du monde. Et ça, c'est l'autre élément qui est fondamental. Il faut une résilience locale, mais qui soit connectée avec toutes les luttes qui se passent ailleurs et qui sont semblables à celles qu'on mène chez nous. Parce que des luttes contre le gaz de schiste, pour les droits des peuples autochtones, pour les droits des femmes, il y en a partout sur la planète. Donc, il faut se connecter avec un monde archipel, dans le fond. Il y a des lieux de résistance un petit peu partout et il faut pouvoir continuer à s'interconnecter. Et c'est là où on peut peut-être utiliser de manière plus intelligente les réseaux sociaux, les médias alternatifs qu'on peut créer. Car maintenant, comme on est en train de le faire actuellement, avec cette entrevue-là par Zoom, mais qui va devenir un podcast, on peut porter la parole, on peut échanger et on peut s'interconnecter au niveau global beaucoup plus facilement. Donc, il faut arriver à faire ces liens-là. Donc, se connecter avec tout ce qui se passe au niveau global, agir localement pour résister aux projets qui ne vont pas dans le sens d'une transition juste, sociale et écologique. Et puis, troisième point, ben, il faut mener la bataille sur des luttes concrètes ici et maintenant. Donc là, cibler des objectifs bien, bien précis. Bon, ben là, on a le troisième lien à Québec, c'est un bon exemple, mais il faut avoir des luttes concrètes parce que chaque fois qu'on va lutter concrètement, même sur des petits enjeux et qu'on va remporter une victoire, eh bien, on va se rendre compte qu'on est capable collectivement de remporter des victoires. Et puis, une victoire après l'autre, ben, c'est cette petite pierre qu'on pose, c'est le petit poussé sur le chemin de la transition qui va nous permettre d'avancer vers un monde meilleur. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 20 ans et un peu plus, même avec toutes les mobilisations au sein du mouvement altermondialiste.
A-t-on réussi à moraliser le capitalisme à la sauce néolibérale?
Non, pas du tout. Il est immoralisable, ce capitalisme, la sauce néolibérale. Il faut juste l'abolir et passer à autre chose.
Merci, Raphaël Canet.
Ça fait très plaisir. Merci beaucoup.
Dialogue global. C'était Jean Cloutier à la réalisation.